intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Si l'on en croit notre calendrier grégorien, une nouvelle année a commencé. Si l'on se réfère au calendrier chinois traditionnel, c'est plutôt une année qui est en train de s'achever. C'est en effet notre 25 janvier que le calendrier chinois ouvrira sa 4718e année, délaissant le cochon pour adopter le rat, tous deux de métal ou d'or. Bonne occasion pour aller faire un tour au pays du soleil levant. Pour cela, il nous suffit de faire un tour au cœur du vieux Montpellier, où Shan Shan Sun, calligraphe chinois, tient sa boutique atelier. La littérature commençant par les gestes de l'écriture, il nous a semblé important de remonter, important ou opportun, de remonter aux sources et de rencontrer l'un de ceux qui pratiquent cet art très ancien. Originaire de Chengdu, la capitale du Sichuan, région de Chine qui s'appuie sur les contreforts de l'Himalaya, Shan Shan Sun est à la fois héritier d'une tradition ancienne et novateur un peu révolutionnaire de cette tradition. Depuis quelques années, il a trouvé à Montpellier un lieu où son art s'épanouit. Nous l'avons rencontré cet été dans son atelier situé 35 rue de la Valfère, pas très loin de l'église Sainte-Anne. Un entretien que nous avions déjà diffusé dans les programmes d'été de la radio, mais que vous avez peut-être raté pour cause de vacances.
Comment un calligraphe chinois, qui a une tradition familiale de calligraphie, hein, il y a eu d'autres calligraphes dans la famille, se retrouve un beau jour calligraphe dans le quartier historique de Montpellier.
Alors, justement, je viens d'une famille, j'ai vécu hein, de calligraphe, et, on peut le dire, je suis la quatrième génération. Mon arrière-grand-père, Shomi, il était calligraphe impérial de l'empereur avant le dernier, nommé Guangxu. C'est une gloire pour la famille et surtout pour moi parce que je suis la personne qui va continuer cette gloire, ce métier, cet art. Et j'ai une sœur et une frère, mais mon père m'a choisi comme la quatrième génération.
Pour transmettre la
pour
tradition.
Pour transmettre, justement. Alors, je suis venu en France en 1993. Peut-être vous êtes au courant pourquoi je suis venu en France. Et là, je vais expliquer pas parce que ça va prendre beaucoup de temps.
Bah, disons très brièvement, pour rappeler nos auditeurs, les manifestations contre le pouvoir
c'est ça.
Qui étaient place Tiananmen, mais pas seulement, ça a été un peu dans toute la Chine. On a parlé beaucoup de Pékin et de la place Tiananmen,
tout
mais c'était ailleurs.
Tout à fait.
Vous étiez à Chengdu à l'époque.
Exactement. Précisément, je suis le numéro un comme organisateur de la ville de Panzhihua. Et pas loin de Chengdu, c'est une grande ville industrielle. Et en 1989, c'était bien moi qui a organisé une manifestation de cette grande ville. Et bien sûr, à cause de ça, j'ai été rejeté en prison. J'ai été arrêté et torturé. Et heureusement, c'est pas très longtemps, grâce au gouvernement américain, et grâce au gouvernement français, allemand, etc. 2 mois et demi après, je suis sorti de la prison, mais vous pouvez pas imaginer, je mesure 1m71, et mon poids, comment dirais-je, quand je suis sorti de la prison, et c'est combien? Ça va vous faire peur. 43 kilos.
Voilà. Oui, ben, ce qui donne une idée du régime auquel vous avez été soumis à ce moment-là.
Justement. Alors, et on parlait de la politique. Je pense que la politique est bien liée avec la calligraphie, même la calligraphie chinoise classique. Et voilà. Donc, même pendant 2 mois et demi, j'ai été en prison, j'ai pas oublié la calligraphie. Et je pratique avec mon droit. Et je fais de la calligraphie sur mon corps. Et bien sûr, en sortant, je me suis dit que je peux tout abandonner. Et la vie va recommencer. La seule chose, je peux pas abandonner, c'est la calligraphie. Mais vous savez que la calligraphie, brièvement, je vais expliquer, même vous connaissez pas, si vous connaissez un peu, la calligraphie classique chinoise, c'est un l'art de bien écrire les caractères chinois. Et autrement dit, si vous connaissez pas les caractères chinois, c'est fichu. Pour moi, c'est long. Alors, la calligraphie chinoise, c'est une grande culture, et c'est la plus grande culture chinoise, on peut le dire. Mais malheureusement, jusqu'au présent, quel objectif en pratiquant la calligraphie classique? C'est malheureusement une répétition. Alors, pour un pratiquant de la calligraphie chinoise, et on dit que je pratique la calligraphie chinoise pour que je puisse m'approcher des calligraphies de notre ancêtre grand calligraphe. C'est nul.
Donc il y a une tradition extrêmement prégnante, extrêmement contraignante. Exactement. De la calligraphie.
Exactement, c'est une pratique, c'est une répétition. Voilà. En imaginant autrefois, même il y a un peu plus de 100 ans, qu'est-ce qu'on a écrit? Avec quoi? Comme outil? C'est avec un pinceau. Tout le monde, si on va écrire, c'est avec un pinceau. Bien sûr, la pratique, c'est une pratique quotidienne. Mais ça, c'est un côté, c'est comme un métier, c'est comme une existence quotidienne. Hein, j'ai écrit, mais sauf que si je n'écris pas, je ne touche pas un pinceau. Mais aujourd'hui, temps passé, alors on continue de pratiquer ce métier, cet art. Alors, si l'autre objectif, c'est encore la façon de s'approcher du résultat qu'on a eu comme des grands calligraphes chinois, et pour moi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est l'art? Un art, c'est une lumière, un art qui existait avec sa manière, qui peut exister aujourd'hui par exemple avec une autre manière. Donc si c'est une lumière, elle doit continuer à briller. Autrement dit, ça va avancer. Alors, comment on voit la calligraphie, comment on pratique la calligraphie aujourd'hui pour nous, c'est une autre leçon. C'est une autre création.
Alors, dans ce que vous dites, on entend en même temps, on devine une tradition calligraphique très liée au pouvoir aussi. Et alors, vous avez pu partir de Chine, hein, vous êtes un peu plus ou moins chassé quand même, vous êtes arrivé en France, vous êtes installé, pas tout de suite, mais assez rapidement à Montpellier, je crois.
Et j'ai vécu quelques années à Paris.
D'accord.
Voilà, quelques années à Paris, et puis après, avec mon épouse, on a pris la décision de descendre dans le sud, parce que le sud... où il y a plus de lumière. En fait, c'est une amie qui vous a proposé d'aller à Montpellier parce que c'est une ville très jeune. Alors, et pour la pratique de calligraphie chinoise, peut-être c'est une occasion et peut-être c'est une possibilité avec laquelle on peut montrer la calligraphie classique chinoise librement et lumineusement aux gens. Et c'est pour cela que je suis venu à Montpellier. Eh bien, ça fait 24 ans que 24 ans, non, 20, non, 22 ans, pardon, que je vive à Montpellier. Et j'ai fondé mon atelier en 1998. Et voilà, ça fait 21 ans. Et dans mon atelier, j'ai tous les cours individuels. Et bien sûr, j'organise aussi des cours collectifs. Mais j'ai jamais oublié d'enseigner. Jamais oublié d'enseigner en suivant, en héritant, si ça se dit, hein, la manière de mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, et surtout avec ma façon d'enseigner dans un pays libre, dans un endroit où il y a plein de lumière, il y a plein de possibilités. La ville de Montpellier, pour moi, c'est de l'eau, c'est une mer, c'est un fleuve, et je suis un poisson qui fait de la calligraphie.
Alors, donc, le poisson calligraphe s'est installé à Montpellier. Alors, oui, je peux attester, effectivement, vous avez pratiqué un enseignement, une transmission de la calligraphie qui n'ignore pas du tout les fondamentaux. Vos élèves ont appris plus ou moins laborieusement les 8 traits fondamentaux de la calligraphie chinoise, et puis sont passés par la calligraphie classique et les différents courants, les différents styles de la calligraphie chinoise. Vous avez, par contre, vous développez quelque chose que vous avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, qui est la calligraphie libre. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi la calligraphie libre que vous pratiquez, que vous défendez, apporte vraiment quelque chose de nouveau dans la tradition, dans une tradition millénaire?
On pense que la calligraphie, c'est une tradition magnifique. On doit la maintenir, mais zut, quoi. Parce que 2000 ans, on répète. En plus, notre objectif, c'est comme un exemple. Moi, je vais peindre, je vais être, si je peux arriver jusqu'au pied de Vincent Van Gogh, je serais content. Zut, si on parlait à ça, hein, jusque, comment dire, derrière, Cézanne, vous Monet, Manet, et un occidental ou une occidentale, il veut me dire que, mais tais-toi, Shan, qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'art, c'est une lumière, je répète. Donc, et en 1904, je suis allé à Pékin pour rencontrer un très grand maître, même aujourd'hui, hein, parce qu'il est, il est directeur d'institut de Chine. C'est comme un institut de France. Et il s'appelle Zheng Naide. Ah, Zheng Naide, vous pouvez le trouver facilement par internet. Alors, en 2004, il a déclaré la calligraphie sans caractère. Oh là là là, c'est une lumière de plus. C'est très audacieux. Il était critiqué par tous les par tous les vieux calligraphes, le conservateur.
Oui, en plus, le mot chinois, je crois, pour calligraphie, en fait, signifie la science des caractères, un petit peu le savoir des caractères. Donc dire le savoir des caractères sans les caractères, il y a quelque chose qui peut paraître complètement fou.
Ouais. En plus, ça, c'est une idée folle, complètement folle. En plus, en 2004, bon, la Chine, elle est bien ouverte, bien sûr, mais quand même sous l'influence politique, toujours, hein. Parce que il était critiqué par le président de l'association de calligraphes professionnels. On dit que vous êtes fou, vous êtes en train de trahir l'autre grande culture, la calligraphie chinoise. Sans caractère, c'est-à-dire qu'il a continué en suivant le style cursif, sauf lisible ou pas lisible, c'est plus important. Le plus important, c'est le mouvement même qui le procure du plaisir. Quand on voit, eh ben, c'est un art, c'est une création. Et moi, je réfléchis, puis en 2005, j'ai déclaré, c'était sur une exposition au vernissage, je me souviens, à Midi Libre. À Midi Libre, j'ai fait une exposition avec un poète. J'ai déclaré ma calligraphie libre. Et là, c'est une grosse pompe. Alors, quand je me souviens, quand je suis revenu, quand je suis allé en Chine en 2007, à l'aéroport, mon maître, il est venu me chercher, il a dit que tu entres dans ma voiture. Il ne faut pas que tu vois les gens, parce que tu sais, on est au courant de ta création là, en disant la calligraphie est libre. Ça, c'est terrible. Tout le monde va te critiquer. Allez, là, tu as 2 semaines, il faut que tu te caches chez moi, tranquillement, réclamer jamais le mot. Ziyo, en chinois, ça veut dire libre. Alors, justement, que jusqu'à aujourd'hui, cette année, c'est 2019, de plus en plus de pratiquants, qui travaillent à la calligraphie libre. Notamment pour moi, par exemple, un immense peintre, vous connaissez très bien, Pierre Soulages, et encore un peintre, une femme, nommée Fabienne Verdier. Alors, leur calligraphie, c'est exactement la calligraphie libre, ou bien on dit la peinture libre. Voilà. Donc, c'est plus la méthode qui compte. Bien sûr, on doit avoir la base. Le plus important, c'est l'intuition. C'est le sentiment du créateur. Voilà. Ça, c'est la calligraphie libre. Et bien sûr, brefement, c'est très peu de temps. Je peux pas dévoiler, enfin, je peux pas vous parler plus. Mais en tout cas, maintenant, vous savez qu'est-ce que non, c'est.
Mais on entend que c'est, voilà, il y a quelque chose qui est autant la calligraphie traditionnelle, si j'essaye de résumer, proposer, c'était une science, un savoir, une tradition. La calligraphie libre, est-ce qu'on pourrait dire, c'est d'abord de l'émotion?
Et tout à fait, exactement. Prenez un exemple. Bien sûr, avant tout, je voudrais réclamer quand même un peu que certains m'ont posé une question. Shan, est-ce qu'on peut abandonner la calligraphie classique chinoise directement? On travaille la calligraphie libre. Je sais pas quoi dire. J'ai envie de dire oui, mais je n'ose pas. Pourquoi? Parce que vous savez que moi j'ai vécu la calligraphie classique, hein, avec sous l'influence de mon arrière-grand-père, avec mon grand-père, avec mon père. Je peux pas trahir cette tradition magnifique.
Et en même temps, moi, j'aurais envie de vous suggérer abandonner la calligraphie classique pour la calligraphie libre ou la dépasser. Ouais. Encore faudrait-il connaître la calligraphie classique et la maîtriser à minima.
Exactement.
Et donc, c'est un peu comme la danse classique. Si on n'a pas, c'est les bases.
Tout à fait.
À partir de là, on peut improviser et faire d'autres choses.
Ouais. Vous êtes très sensible.
Il faut des bases.
Bravo. Vous êtes très sensible. Vous êtes très intelligent. C'est pas un compliment. Pourquoi je dis ça? Alors, justement. Il y a une phrase, vous savez, on dit que avant d'abandonner Beethoven, on l'ose, hein, Beethoven c'est un très grand musicien, n'est-ce pas? Il faut écouter Beethoven. Avant d'abandonner Vincent van Gogh, je l'ose, Vincent van Gogh, on l'ose pas.
Un peintre qui vous est très cher.
Il faut voir les peintures de Vincent van Gogh. Bon, ça c'est un exemple. C'est-à-dire que quand on va travailler la calligraphie libre, pour le moment, je vous dis, il faut au moins, il faut avoir la base. La base. Et j'ai créé une méthode. Je l'appelle, maintenant je répète même plus la calligraphie chinoise ou la peinture chinoise. On dit souvent, la calligraphie chinoise et la peinture chinoise sont intimement liées. De ma façon, j'ai créé une méthode, je l'appelle le nez mouvement calligraphique. C'est-à-dire que les élèves travaillent avec moi, c'est obligatoirement, il faut commencer à travailler là, les mouvements calligraphiques. Les mouvements calligraphiques, tout simplement, qui contient 8 mouvements calligraphiques fondamentaux. Et puis, il y a 18 variantes du mouvement calligraphique. C'est pas beaucoup. Voilà. Et puis, là, on peut entrer dans la calligraphie libre sans connaître les caractères chinois. Mais ça, c'est une manière de parler. Depuis, quand vous commencez à travailler la calligraphie libre, c'est sûr, vous allez voir. Est-ce qu'on peut voir un peu, jeter un coup d'œil sur la calligraphie classique de que je vous montre la calligraphie classique, j'en suis sûr. Vous avez envie de connaître un peu plus. Parce que c'est magnifique.
Non, puis quand vous dites ça, après, alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans la tradition de l'art occidental, mais si on s'intéresse un petit peu à la peinture calligraphie, à la calligraphie peinture, je ne sais plus, ouais. Chinoise un peu traditionnelle, je pense à l'art d'un Shitao, par exemple. Ouais. C'est un grand peintre, mais c'est aussi un très grand calligraphe.
Tout à fait.
Ses œuvres,
ouais.
Ses tableaux, ou ses calligraphes, on ne sait plus trop, il y a un peu des deux. D'ailleurs, il y a souvent, dans des représentations de paysages, il y a aussi une calligraphie, il y a aussi un texte, un poème associé, très souvent.
Ouais. Mais, faites attention, jusqu'au présent, hein, je veux dire, en parlant de la calligraphie chinoise, quand on dit, ah là, il y a un peintre excellent, sous-entendu, il n'a jamais fait de la calligraphie chinoise, c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous savez que, je vous dis, chaque fois, les gens sont venus pour s'inscrire, par exemple, un homme ou une femme, voilà. Et je dis que, monsieur, madame, vous venez ici avec Shen Shen Sen, ni pour dessiner, ni pour peindre, c'est pour calligraphier. Justement, on va demander qu'est-ce que c'est calligraphier. Voilà, justement. C'est pas la façon de peindre ni dessiner. Vous allez voir. Et simplement, je vous dis que on peut pas regretter. Vous savez, la peinture, soit peinture à l'huile, soit d'autres façons de peindre, quelquefois c'est une répétition. On va ajouter des traits pour qu'on puisse voir la partie lumineuse et la partie obscure, à la fin, pour chercher un peu le relief. La calligraphie, c'est pas ça. Un trait sur papier de riz, et souvent, il y a des effets imprévus. C'est ça qui vous procure du plaisir. Alors, on peut pas répéter. Un trait, c'est un trait de que le pinceau, la pointe, ait quitté le papier, le mouvement est mort. Voilà. Et c'est pour ça que, en taquinant, certains pratiquants me demandaient, Shan, est-ce que je peux revivre? Est-ce que tu peux me donner une vie? Je dis oui. Alors, c'est-à-dire que, on triche un peu en pratiquant la calligraphie, la pointe est déjà quittée, le mouvement, je retouche. Et même, ça devient un art. Aujourd'hui, en retoussant, ça donne plus un effet. Vous savez, quand je parle de ça, vous savez. Alors, l'art. Par exemple, tout au début, quand on travaille la calligraphie, on insiste sur la droiture d'un pinceau, la position. Il faut qu'il soit droit, perpendiculaire à la table. Mais contraire, quand, pour un maître, en faisant de la calligraphie ou de la peinture, surtout la peinture chinoise, on couchait le pinceau. Pourquoi? Parce que c'est pour qu'on puisse utiliser les trois parties à la suite. La pointe, la semi-pointe et le côté. Voilà.
Ouais. Ce que l'art des représentations des bambous met en œuvre en permanence. On utilise côté, pointe, voilà. Toutes les positions du pinceau sont utilisées.
Ouais.
Voilà. Ah, alors, ouais. Merci beaucoup. Shan, oui, c'est montagne, je crois, la signification.
Oui, Shan, mon prénom Shan, ça veut dire montagne.
Montagne.
Voilà.
Alors, je rassure nos auditeurs, Oui, c'est un peu une montagne à gravir, cette calligraphie chinoise, et d'arriver au sommet de la calligraphie et pouvoir découvrir les perspectives qu'ouvre la calligraphie libre. Eh bien, écoutez, je suggère à nos éditeurs une adresse, rue de la Valfère à Montpellier, poussez la porte de l'Institut de calligraphie de Shentou, qui est installé à Montpellier. C'est ça, je crois, c'est l'Institut de calligraphie du Shentou de Montpellier.
Exactement.
Hein, et vous découvrirez, alors ça fait en même temps salle d'exposition, c'est un espace tout à fait agréable. Ouais. Quand vous rentrerez, vous serez peut-être tout de suite surpris par une odeur particulière, qui est celle de l'encre. Hein, on pourrait parler du rituel de la préparation de l'encre avec la pierre et ce mouvement qui permet de se concentrer, il me semble. Calligraphe qui prépare son encre en même temps se détache petit à petit du monde pour rentrer dans son univers de calligraphe. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Et puis alors, si vous pratiquez un peu et vous avez du mal à trouver du matériel, vous trouverez tout le matériel chez Shanshan. Il y a tout ce qu'il faut pour la calligraphie, les papiers, les pinceaux, les pierres, les encres.
Exactement. Vous me permettez, pardon, je vous interromps. Vous me permettez. Alors, souvent, les gens m'ont demandé, alors, moi, je suis ni peintre, ni dessinateur, est-ce que je peux faire de la calligraphie? Oui. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit que sur un papier blanc, c'est plus facile pour dessiner. Alors, dans le sens que, soit vous êtes peintre ou dessinateur, soit vous avez même vécu les études d'une école de beaux-arts, etc. On peut toujours commencer à travailler la calligraphie libre avec laquelle on se libère. On dit vive la liberté.
Voilà. Et puis, dernière petite réflexion. Je crois qu'il y a presque un proverbe chinois qui dit un voyage de 1000 lis commence par le premier pas.
Exactement. Exactement.
Donc nous encourageons nos auditeurs à faire le premier pas en rentrant dans votre atelier.
Voilà. En plus, j'insiste encore que j'ai donné le cours éventuellement, normalement, notamment, j'ai donné le cours individuel. Pourquoi? Vous savez, avec le cours individuel, pour apprendre, c'est plus facile. Pourquoi? C'est un dialogue. Et en plus, qui enseigne apprend. Vous savez? Alors, en tout cas, à la fin, je vais vous dire que en travaillant la calligraphie libre, il y a deux valeurs. La partie visible, c'est la pratique. C'est pinceau, encre, papier de riz. Il y a la partie invisible, c'est le souffle qui compte. Ça vous permet de vivre plus longtemps. C'est pas une plaisanterie, hein. C'est prouvé. Vous savez que aujourd'hui, déjà aujourd'hui, les calligraphes vivent beaucoup plus longtemps. C'est 30 ans de plus. Sous la dynastie des Tang, vous savez, dynastie des Tang, c'est il y a 1400 ans, environ, hein, 1400 ans. Et les gens de la capitale de Chine, hein, Chang'an, et l'âge moyenne, c'était 42 ans. C'est pas mal, déjà. Et les calligraphes célèbres, hein. Et l'âge moyenne, c'était 78 ans. Voilà.
Nous conclurons sur cela. Pour achever de vous convaincre, la calligraphie, c'est bon pour la santé. Merci, Shanshan.
De rien.
Voilà. Si vous souhaitez rencontrer Shanshan, n'hésitez pas à aller pousser la porte de son atelier. C'est 35 rue de la Valfère et vous découvrirez tout un monde assez magique et qui vous ouvrira beaucoup de portes. Ouvrez cette porte et comme le dit le proverbe que je citais dans l'entretien, un voyage de 1000 lis commence par le premier pas. Commencez par pousser la porte. Que ce soit pour une année française ou chinoise, nous vous envoyons nos voeux par les ondes et vous retrouverons pour d'autres aventures littéraires dès la semaine prochaine.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.